La Pentecôte est un événement majeur dans l'histoire de notre humanité. Il serait impossible en une seule prédication de faire le tour de tout ce que la Bible annonce au sujet de la venue de l'Esprit Saint lors de la fête juive de la Pentecôte. Aussi ai-je choisi ce matin un angle d'approche particulier de la Pentecôte. J'aimerais vous montrer, en tout cas essayer de vous montrer, le lien qui existe entre l'ascension du Christ et la venue du Saint-Esprit sur les premiers chrétiens. Vous avez vu tout à l'heure le petit tableau que Simon a présenté avec les différentes fêtes qui correspondent pour nous ici en France à des jours fériés. L'ascension du Christ est peut-être une des fêtes que nous fêtons le moins. Parce que justement, ça tombe un jeudi et pas un week-end. Et donc, nous y pensons peu. Mais il y a un lien fort entre l'ascension du Christ et la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, ce que nous fêtons ce matin. Et à partir de ce lien, j'aimerais vous voir comment ces premiers chrétiens qui reçoivent le Saint-Esprit réagissent et quelles sont les conséquences de la venue de l'Esprit-Saint. J'aimerais essayer de faire ressortir les éléments importants du texte d'Actes chapitre 2, afin que nous nous sentions chacun concernés par ce récit d'un événement vieux de près de 2000 ans. Alors nous allons prendre dans le chapitre 2 du livre des Actes la suite du texte que Simon a commencé de lire avec nous tout à l'heure. Donc, si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez l'ouvrir, sinon simplement écoutez la lecture qui va être faite. Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 14. Donc vous vous souvenez ce qu'on a lu tout à l'heure? Les apôtres, les premiers chrétiens, là, parlent de Jésus ressuscité dans la langue maternelle des gens qui sont autour d'eux, et certains pensent qu'ils sont ivres. Alors Pierre, verset 14, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. » Citation de Joël chapitre 3. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies, c'est-à-dire des Romains, des non-juifs. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, citation du psaume 16, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. » Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. » Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David, il est mort, il a été enseveli, et sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à aujourd'hui. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré par une promesse, un serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la décomposition. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins.
Amen.
Maintenant, écoutez bien, parce que la prédication va porter sur la fin de ce texte. Verset 33. Élevé à la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il a dit lui-même, citation du psaume 110, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé ou vivement touché, selon les traductions. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération corrompue. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent environ ajoutés 3000 personnes ajoutées à l'Église. Ce matin, j'aimerais relever avec vous quatre choses que nous dit ce texte au sujet de la venue du Saint-Esprit. Premièrement, la condition de la venue du Saint-Esprit. Deuxièmement, le moyen de la venue du Saint-Esprit. Troisièmement, le signe de la venue du Saint-Esprit. Et quatrièmement, le fruit de la venue du Saint-Esprit. La condition, le moyen, le signe, le fruit de la venue du Saint-Esprit. Premièrement, la condition de la venue de l'Esprit Saint. Relisons le verset 33. Pierre dit de Jésus qu'il a été élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ce phénomène extraordinaire qui s'est produit à la Pentecôte il y a 2000 ans, le fait que les apôtres reçoivent l'Esprit Saint et se mettent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas des merveilles de Dieu, c'est le fruit de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est là le sens de l'ascension de Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, l'apôtre Paul nous dit, je cite, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » C'est cela, l'ascension. Ce n'est pas d'abord un jour férié ou l'année prochaine un pont, c'est l'entrée triomphale du Fils de Dieu dans le ciel, c'est-à-dire le temple céleste, le lieu de la présence de Dieu. C'est aussi ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, j'ai cité avant Philippiens 2, versets 9 et 11. Maintenant, Hébreux, chapitre 9, verset 24. Écoutez bien. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du vrai sanctuaire. Il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Quand Jésus a disparu aux yeux des apôtres, Après sa résurrection, il est apparu aux apôtres pendant 40 jours. Et puis le début du livre des Actes nous dit que Jésus est monté vers le ciel et il a été enlevé à leurs yeux. Jésus n'est pas parti en vacances. Jésus est monté se présenter devant Dieu comme l'agneau immolé, comme celui qui est à la fois le sacrifice et le sacrificateur, celui qui nous a acquis une fois pour toutes le pardon de nos péchés, si nous plaçons notre confiance en lui. Il s'est présenté devant Dieu comme celui qui a porté nos péchés. Et le Père a dit à son Fils, « Mon Fils bien-aimé, viens t'asseoir sur le trône. » C'est ça, l'ascension du Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit aussi au chapitre 10 et au verset 11, « Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Ça, c'est ce que faisaient les sacrificateurs juifs. Mais lui, Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite du Père. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Allusion au psaume 110 que Pierre cite dans sa prédication à la Pentecôte. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? Ça veut dire exactement ce que Pierre dit dans Acte 2, verset 36, que toute la maison d'Israël, et j'aurais envie d'ajouter, que toute l'Église sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qui a été crucifié. Mes amis, Jésus règne aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour l'avenir. Un jour, oui, le royaume de Dieu, un jour viendra et pour l'instant, c'est Satan qui règne dans le monde. Non, Jésus est le roi. Amen. Aujourd'hui. Amen. Et depuis 2000 ans, il règne sur le trône du Père, avec le Père. Et c'est en tant que roi, sur le trône divin, que Jésus reçoit du Père, c'est ce que nous dit Pierre. Jésus reçoit du Père l'Esprit Saint, non pas que Jésus n'avait pas l'Esprit de Dieu avant, mais le Père transmet l'Esprit au Fils, et le Fils répand l'Esprit sur les premiers chrétiens à la Pentecôte. Vous voyez ce lien entre l'ascension du Christ, qui monte recevoir le couronnement royal, et la venue du Saint-Esprit, Jésus, le Fils, avec le Père, envoie l'Esprit Saint sur les premiers chrétiens. Et c'est exactement ce que Jésus avait annoncé. Simon y a fait allusion tout à l'heure. Je lis encore quelques versets dans les chapitres 14 à 16 de l'Évangile selon Jean. Écoutez bien, Jean 14, verset 16. Jésus dit à ses apôtres, « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera éternellement avec vous. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera parmi vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Jésus va monter au ciel pour recevoir la royauté. Il envoie le défenseur pour être avec nous. Ou comme on l'a rappelé tout à l'heure, pour nous rappeler les paroles du Christ. Jean chapitre 15, verset 26. « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous rendrez témoignage de moi, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement, depuis le début de son ministère. » Et encore Jean chapitre 16, verset 7. Je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous voyez le lien entre la mission de Jésus et la mission du Saint-Esprit. Jésus part, ses disciples sont tristes, mais il leur dit « Ne vous inquiétez pas, je vous envoie l'Esprit Saint ». Et c'est ce qui se passe le jour de la Pentecôte. la condition de la venue du Saint-Esprit, premier point, c'est que Jésus soit intronisé roi et soit entré dans son règne. Et Jésus, en tant que roi, envoie l'Esprit sur les croyants. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Parce que cela peut nous paraître bien théorique. Cela veut dire qu'aujourd'hui, Jésus ressuscité, pleinement homme et pleinement Dieu, règne aujourd'hui et pour toujours. Son règne, son royaume n'est pas futur, il est déjà là. Un jour, ce règne ne sera plus contesté. Le mal est encore à l'œuvre, mais un jour, l'Écriture nous dit que le mal sera anéanti et la justice du royaume de Jésus sera pleinement évidente. Cela veut dire aussi, comme je le disais tout à l'heure, que le monde n'est pas entre les mains du diable et des démons. Le monde est entre les mains du Christ ressuscité. Satan n'est nommé que comme prince de ce monde, parce qu'il a encore un certain pouvoir, pour quelque temps. Mais Satan n'est pas tout puissant. Le seul qui soit tout puissant, le Seigneur, c'est l'homme Jésus ressuscité, qui règne aujourd'hui sur le trône céleste. Pierre nous parle aussi dans ce texte du moyen par lequel l'Esprit se révèle, vient se révéler personnellement à chacun. Je relis Actes chapitre 2, verset 37 et le début du verset 38. Après avoir entendu le discours de Pierre, ses auditeurs eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur répondit, « Repentez-vous. » Pourquoi la repentance ? Pourquoi la conversion ? La repentance, ce n'est pas seulement une émotion, un regret, une tristesse. La repentance, c'est un changement radical de manière de penser, de manière de vivre. Si nous comprenons que Jésus est Seigneur, ce n'est pas seulement une information sensationnelle qui fait le buzz pendant quelque temps et puis qui retombe dans l'anonymat médiatique. Cela fait 2000 ans que des hommes et des femmes de toutes les nations se tournent vers Jésus-Christ comme Seigneur. Pourquoi ces hommes et ces femmes se tournent vers Jésus comme Seigneur ? Parce que c'est plus qu'une information. Jésus-Christ Seigneur, c'est ce qui donne sens, ou pas, à notre vie aujourd'hui et à notre avenir pour toujours. En quoi consiste la repentance des auditeurs de l'apôtre Pierre ? Eh bien, ces Juifs de la génération de Jésus reconnaissent qu'ils se sont trompés au sujet de Jésus. Celui qu'ils ont considéré comme un blasphémateur ou comme un imposteur, celui qu'ils ont, d'une manière ou d'une autre, crucifié. Chacun d'entre eux était plus ou moins impliqué personnellement. Peut-être certains faisaient partie de la foule qui criait « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Peut-être d'autres ont simplement regardé ou cautionné de loin. Tous, en tout cas, sont impliqués collectivement en tant que nation juive qui a tué son roi. Et c'est de cela qu'ils prennent conscience. Nous avons crucifié notre Messie. Le roi est venu, le roi d'Israël est venu, celui qui était annoncé par les prophètes. Notre roi, nous l'avons tué. Et c'est pour ça que leur cœur est comme transpercé par la parole de Pierre. Nous, juifs, nous avons crucifié notre Messie, le roi que nous attendons depuis des siècles. Ils ont crucifié leur Seigneur. Nous, ici, en 2015, qui ne sommes pas juifs, nous pouvons néanmoins entendre ce que vit ici le peuple d'Israël. Et l'attitude du peuple d'Israël peut nous servir d'exemple. Nous n'avons peut-être pas littéralement participé à la crucifixion de Jésus-Christ il y a 2000 ans, mais en tant qu'être humain pécheur, nous pouvons nous aussi prendre conscience, ou pas, que nous nous sommes trompés de Seigneur. En attachant notre vie à quelqu'un ou à quelque chose d'autre, à d'autres seigneurs. Alors, les autres seigneurs auxquels nous pouvons nous attacher, c'est moi. Pas moi, Sylvain, hein, mais chacun de nous peut dire « Mon moi, c'est mon maître, je suis mon propre maître, personne ne me dit ce que je dois faire, c'est moi qui décide. » Mais nous avons d'autres seigneurs, l'argent peut être notre maître. Le travail peut être notre maître. La recherche d'un statut social, d'une réputation, d'un prestige. Ou bien, ça peut être une philosophie ou une idéologie. Même une religion peut être notre maître. Et l'apôtre Paul, dans les trois premiers chapitres de l'Épître aux Romains, démontre que tous ont péché, les juifs et les non-juifs. Nous sommes tous dans le même bateau. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons rejeté le Seigneur en lui tournant le dos pour nous constituer des petits seigneurs à notre image. Eh bien, la repentance, chers amis, c'est le moyen que Dieu nous donne pour recevoir son esprit, comme une sorte de Pentecôte personnelle, individuelle. Si nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne et met son esprit en nous. La repentance, la foi, c'est ça la foi. C'est le moyen de recevoir l'esprit de Dieu. C'est reconnaître que tous les maîtres que nous nous sommes fabriqués ou que nous nous fabriquons sont de faux maîtres et qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Se convertir, comme on dit, ce n'est pas adopter une religion. C'est tourner le dos à ces faux seigneurs pour accepter le seul Seigneur qui soit Jésus. Confesser sa faute, c'est dire « Je me suis trompé ». J'ai fait fausse route. Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Devenir chrétien, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur en se détournant des faux seigneurs que nous nous sommes fabriqués. J'aimerais lire avec vous une question que nous avons posée aux jeunes pendant le week-end que nous avons vécu ensemble le 1er mai. Ça va rafraîchir la mémoire de certains. Nous avons médité les paroles de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Je vous lis juste le début du verset 6. Paul dit « Puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez en lui. » Puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez en lui. Et donc, les jeunes devaient méditer pendant quelques minutes sur ces versets et se poser la question, est-ce que je peux dire, et je vous renvoie la question ce matin, est-ce que vous pouvez dire ce matin, moi, j'ai reçu Jésus dans ma vie, je vis en lui et pour lui. Réfléchissez quelques instants et sincèrement à cette question. Est-ce que je peux sincèrement dire devant Dieu, Jésus est mon Seigneur? Si vous répondez oui à cette question, alors la vie chrétienne est ouverte devant vous. même si vous avez quelques années de vie chrétienne déjà derrière vous. Si vous répondez non à cette question, si vous ne pouvez pas dire ce matin « Jésus est mon Seigneur », Jésus était un bienfaiteur dans l'humanité, Jésus était un type sympa, Jésus a fait des miracles, Jésus a enseigné des choses super, c'était un bon philosophe. Mais dire « Jésus est mon Seigneur » et que nous puissions dire ensemble « Jésus est notre Seigneur », ça c'est autre chose. Si vous ne pouvez pas dire cela, alors je vous invite à faire cette prière maintenant. Père céleste, je te remercie pour Jésus. S'il est vraiment le Seigneur de tout, alors je veux qu'il soit aussi mon Seigneur. Je veux qu'il dirige ma vie dès maintenant et pour toujours. Amen. La condition de la venue du Saint-Esprit, c'est l'ascension de Jésus sur le trône céleste. Le moyen par lequel Dieu nous fait la grâce de recevoir son esprit personnellement, c'est la repentance, la foi en Jésus-Christ. Maintenant, quel est le signe de la venue de l'Esprit-Saint? Je relis les mêmes versets que j'ai lus tout à l'heure, Actes 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous voyez ce lien entre la repentance et le baptême ? La repentance, c'est la démarche que nous faisons par rapport à notre attachement à de faux seigneurs, par rapport à notre révolte contre le Seigneur. C'est l'aspect intérieur, personnel, de la venue du Saint-Esprit, ou du baptême dans l'Esprit. C'est aussi une expression qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Le baptême d'eau, c'est l'aspect extérieur, c'est l'aspect communautaire qui manifeste concrètement la décision d'un changement de vie personnel. Le baptême, notez bien, n'est ni la condition, ni le moyen pour recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qui nous distingue, nous, protestants évangéliques, de la doctrine catholique romaine, par exemple. Le baptême n'est ni la condition, ni le moyen par lequel nous recevons le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que nous passons par les eaux du baptême que nous recevons le Saint-Esprit. C'est parce que nous mettons notre foi en Jésus le Seigneur. Le baptême représente cette démarche de foi, symbolise le geste, par le geste du baptême par immersion, que nous avons décidé de suivre le Christ, qu'avec lui nous sommes morts, et c'est pour ça que nous plongeons la personne dans l'eau, mais qu'avec lui nous sommes aussi ressuscités, nous ressortons de l'eau pour une vie nouvelle, avec le Seigneur. Le geste du baptême ne produit en lui-même aucun changement intérieur, mais il représente, il officialise en quelque sorte ce changement de maître. Et le même apôtre Pierre dira quelques années plus tard, dans sa première lettre, au chapitre 3 et au verset 21 et 22, il parle de Noé, de l'arche, et il dit « C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. » L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu par la résurrection de Jésus-Christ, écoutez bien, qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Il est le roi, le Seigneur. Pierre dit à ses auditeurs dans Actes chapitre 2, Soyez baptisés au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, au nom de Jésus? Eh bien, c'est simplement la marque de cette nouvelle allégeance. Ce n'est pas une formule à prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas parce qu'on dit « au nom de Jésus » quand on baptise quelqu'un que c'est le vrai baptême. Là, je vous rappelle ce que j'ai dit dans une des prédications sur Galates chapitre 1. Ce n'est pas la formule que nous prononçons qui a un quelconque pouvoir dans le baptême. Être baptisé au nom de Jésus, cela veut dire que le baptisé s'identifie à son Seigneur. Il est plongé dans l'eau et puis relevé de l'eau. Le baptême, c'est une cérémonie d'engagement à suivre Jésus-Christ, le Seigneur. Le baptême, ce n'est pas faire une expérience spirituelle particulière. Le baptême, c'est une façon d'être ajouté à l'Église. C'est ce que Pierre dit au verset 41. Ce que le récit dit au verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutées environ 3000 personnes. Alors, j'aimerais vous appeler ce matin, selon la situation dans laquelle vous êtes. Pour ceux qui ont fait tout à l'heure la prière, ou qui ont déjà fait une fois ou à certains moments dans leur vie cette prière, de demander à Jésus d'être leur Seigneur. Eh bien, il me semble que ces textes que nous lisons ce matin, « Repentez-vous et faites-vous baptiser », ça va ensemble. Et j'aimerais vous encourager ce matin à réfléchir au baptême, si vous n'êtes pas passé par les eaux du baptême. Alors que vous professez cette foi en Jésus-Christ, qui est votre Seigneur. Le baptême est un signe de notre repentance, de notre désir de nous engager à vivre sous l'autorité de Jésus, le Seigneur. Et pour vous, pour nous qui sommes passés par les eaux du baptême, il me semble qu'il y a là un appel à persévérer dans notre engagement. Le Seigneur est fidèle. Vous ne vous êtes pas trompé de Seigneur en mettant votre foi en Jésus. Les épreuves, les tristesses, les joies, les victoires, les échecs, les progrès dans votre vie avec le Seigneur, tout cela est sous son contrôle. Et le Seigneur utilise toutes ces choses pour nous former à son image. Lui qui est notre Seigneur. Ne nous décourageons donc pas si nous traversons des moments difficiles. Et rappelons-nous de ce que nous avons professé le jour de notre baptême. Dernier point que j'aimerais aborder avec vous, le fruit de la venue du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 40. Et par beaucoup d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération corrompue. Sauvez-vous de cette génération corrompue. » Le fruit de la venue du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit produit dans la nouvelle vie du chrétien et aussi de l'Église, c'est l'apprentissage de la sainteté. Si je reconnais que Jésus est mon Seigneur, cela veut dire que Jésus me forme, nous forme comme ses disciples. C'est-à-dire comme des gens qui mettent en œuvre les paroles et l'exemple de vie de leur Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Se sauver de cette génération mauvaise ou corrompue. D'abord, ça veut dire reconnaître que le monde va mal. Je dirais, c'est pas bien difficile. Il suffit d'allumer la télé, de regarder les informations. Mais c'est plus que cela. si je reconnais, si je prends conscience personnellement que Jésus est mon Seigneur, alors cela veut dire que je renonce à certaines choses que le monde qui m'entoure considère comme bien. Mais que ma rencontre avec le Seigneur, notre rencontre avec le Seigneur, fait que maintenant, nous considérons ces choses comme mal. Parce que mon Seigneur, notre Seigneur, nous dit que c'est mal. Et plus nous avançons dans la vie chrétienne, et plus nous comprenons ce que Dieu appelle bien et ce que Dieu appelle mal. Se sauver, ça ne veut pas dire s'isoler du monde ou fuir le monde. Dans sa prière, en Jean chapitre 17, c'est ce que Jésus demande au Père à propos de ses apôtres. « Je ne te demande pas de les sortir du monde, mais de les garder du diable. » C'est pas du tout pareil. Et dans la prière du Notre Père, nous prions « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Ça veut dire qu'il y a un combat, qu'il y a une lutte, que nous sommes dans ce monde, même si nous ne sommes plus de ce monde, c'est-à-dire de l'esprit de ce monde, de l'esprit qui gouverne de ce monde, de la mentalité de ce monde, des principes qui régissent la politique, l'économique, les mœurs dans ce monde. Et l'apôtre Paul utilise l'image du flambeau dans Philippiens chapitre 2 au verset 14. Il dit « Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. »
Amen.
Les chrétiens ne vivent pas dans une bulle à l'écart du monde. Nous sommes dans ce monde et notre mission en tant que disciples du Seigneur, c'est de briller, non pas de notre lumière, mais de la lumière du Christ. Pour que les gens qui vivent autour de nous et qui, eux, tâtonnent dans l'obscurité, repèrent où est la lumière, où est la vérité, dans un monde où on pense qu'il n'y a plus de vérité absolue, plus d'autorité absolue. Nous avons là un message et une vie qui tranche par rapport à ce que tout le monde pense ou par rapport à ce que tout le monde fait. L'apôtre Paul dit encore dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde présent. » C'est ça, être disciple du Christ. C'est ne pas suivre la foule comme un mouton. C'est discerner. Est-ce que ce que le monde me dit, est-ce que ce que mon entourage me dit, c'est conforme aux paroles de Jésus, à son exemple de vie ou pas? Parce que nous avons changé de Seigneur. Et parfois, nous avons aussi à exercer ce discernement dans l'Église. Vous avez certainement entendu parler la semaine dernière d'une décision qui a été prise à la quasi-unanimité par le synode, c'est-à-dire les responsables de l'Église protestante unie de France. C'est une association qui regroupe les églises protestantes traditionnelles, réformées et luthériennes. Eh bien, cette partie du monde protestant a adopté à pratiquement l'unanimité la possibilité pour les pasteurs réformés et luthériens de bénir l'union de deux personnes de même sexe. Le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, a vivement réagi en publiant un communiqué, que vous pourrez lire, qui est affiché dans l'entrée, pour dénoncer cette décision consternante. Il y a là une confusion entre accueillir les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, et cautionner, c'est-à-dire appeler bien, bénir, c'est ça, appeler bien ce que l'Écriture appelle mal. Il y a là un choix tout à fait discutable et regrettable, qui va certainement occasionner des ruptures au sein même de l'Église protestante unie. La corruption de notre monde n'est pas que sexuelle, elle est aussi financière. Je crois me rappeler que nous sommes dans la période où il faut remplir sa déclaration d'impôt. Mais si Jésus est notre Seigneur, est-ce que nous devons payer nos impôts? Est-ce que nous devons payer tous nos impôts? Jésus a dit: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est Jésus qui l'a enseigné, non? Quelle est notre attitude par rapport aux impôts? Sinon, si nous disons que Jésus est le Seigneur. Être chrétien, c'est être citoyen du royaume du Christ. Christ qui règne aujourd'hui. Nous sommes donc invités à rendre à François Hollande ce qui appartient à François Hollande, que cela nous plaise ou non. Ceci dit, nous ne sommes pas obligés de donner plus que nécessaire. Et il y a là aussi un discernement à avoir dans la gestion de nos finances. C'est pour cela que dans un de nos groupes de quartier, nous essayons de réfléchir comment nous gérons nos biens matériels. Nous sommes appelés à discerner, mais aussi à obéir aux paroles du Christ. J'aimerais conclure. J'ai abordé ce matin le thème de la Pentecôte sous un angle particulier, celui du lien qui existe entre la venue du Saint-Esprit et la seigneurie du Christ. Jésus est Seigneur. C'est parce que Jésus est Seigneur qu'il répand le Saint-Esprit sur les croyants à la Pentecôte. C'était la condition de la venue du Saint-Esprit. Jésus est Seigneur. Et cet Esprit, il le répand sur tous ceux qui acceptent par la repentance, c'était le moyen de la venue de l'Esprit, tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur. Le baptême vient officialiser comme un signe cette décision personnelle et intègre la personne baptisée à la communauté chrétienne. Le baptême n'est pas un diplôme de fin de parcours chrétien, c'est le début de l'apprentissage de la sainteté. Et ensuite, le Saint-Esprit qui vit en nous produit son fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Alors, si vous avez été interpellé par l'une ou l'autre de ces paroles que nous avons lues ce matin, je vous invite à ne pas en rester là et à vous approcher après le culte d'un frère ou d'une sœur pour prier, peut-être un des anciens, Peter, Patrick ou moi-même, pour aller un peu plus loin sur ces questions que j'ai essayé de soulever avec vous. Où en êtes-vous par rapport à la repentance? Où en êtes-vous par rapport à confesser Jésus comme votre Seigneur, avec tout ce que cela implique dans tous les domaines de notre vie? Où en êtes-vous par rapport à la démarche du baptême? Où en êtes-vous dans votre apprentissage de la sainteté? Où en êtes-vous dans le décalage qu'il peut y avoir entre vos paroles « Jésus est Seigneur » et la réalité de ce que cette parole change dans votre vie. Il y a au moins un point commun entre nous tous qui sommes réunis ici ce matin, c'est que Jésus-Christ nous appelle à reconnaître sa seigneurie et ce que cela implique comme changement. Et parce que ces paroles de l'Écriture nous concernent tous, je vous propose de prier pour terminer. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous tourner vers toi pour reconnaître que Jésus est Seigneur. Que tu l'as glorifié en le ressuscitant et en le faisant asseoir sur le trône céleste et qu'il règne aujourd'hui. Seigneur, si nous avons pris conscience de cela, aujourd'hui, ou il y a peut-être déjà bien des années, nous te prions que tu ne nous laisses pas tranquilles avec cette pensée et que tu nous apprennes dans les jours et bien sûr les mois et les années qui viennent, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Non seulement de dire que Jésus est Seigneur ou de dire Seigneur, Seigneur dans nos prières, mais aussi de vivre une vie qui plaise au Seigneur. Que ce soit dans notre travail, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre témoignage chrétien dans cette société, dans notre façon de gérer l'argent, dans notre façon de faire des études, de passer des examens. Seigneur, Seigneur, nous implorons ton aide. Si tu as envoyé un défenseur, c'est pour nous accompagner, c'est pour nous aider. C'est parce que tu sais que nous avons des combats à mener contre le péché, contre le diable qui essaye de nous faire chuter. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons aussi besoin de nous rappeler que, parce que tu es Seigneur, dès aujourd'hui et pour toujours, la victoire est déjà acquise. Seulement, nous ne voyons peut-être pas encore cette victoire dans nos vies. En tout cas, elle est partielle. Et nous voulons, avec l'apôtre Jean, à la fin de l'Apocalypse, te dire « Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. » Amen.